France Inter. De 6 ans à 24 ans, je n'ai pas eu la moindre idée des agressions que mon corps et mon cerveau avaient eu à gérer. 18 ans en circulation, à essayer de mettre sa vie à l'endroit, à développer des formes de relations amicales, intimes, à entrer dans la sexualité sans savoir que ce qui m'avait construit intimement était grave, très grave. Combien sommes-nous à avoir traversé une partie de notre vie sans avoir conscience d'être complètement abîmés à des endroits vitaux ? Imaginez que chaque année, on donne le droit de conduire toutes sortes de véhicules à des personnes qui n'auraient jamais pris une heure de leçon de conduite. Vous imaginez le nombre d'accidents qu'il y aurait au quotidien, partout ? Serait-ce possible de mettre un chiffre sur le nombre de personnes se déplaçant sans avoir appris, sans connaître leurs défaillances ? C'est difficile. Si les garçons ne sont pas outillés pour lire les agressions qu'ils ont subies, les filles le sont-elles beaucoup plus ? Combien sommes-nous, avons-nous été ? À conduire sans avoir les bases. En termes de probabilité d'accident à l'échelle intime, ça fait beaucoup de tôles froissées, non ? Combien de victimes ? Combien de vies fauchées ? Combien de traumatismes ? Combien d'amputations ? C'est vertigineux, terrifiant et vertigineux.
En marge. Julia Foyce sur France Inter.
Les humains se plaignent souvent de moi, ils répètent en cœur que je passe trop vite. C'est vrai, je leur impose mes lois et les rapproche doucement de l'ultime verdict. Je leur donne des rhumatismes, des cheveux blancs et des rides sur le visage. Au bout du chemin, parfois, ils regrettent leur manque de folie et leur vie sage. Je fais pousser les feuilles des arbres et quand j'en ai marre, je les fais tomber. J'aide les fleurs à naître, à grandir, à s'épanouir et à succomber. Je fais tourner l'humanité en rond et plonge une partie du monde dans le sommeil. Je fais tourner la terre comme les aiguilles de l'horloge autour du soleil. Appelle-moi Chronos.
Je n'ai pas de nom. Je suis invisible, je suis ton pote, ton proche, ton cousin, ton collègue ou ton voisin. Je n'existe pas, je me faufile. Je crois que le temps apaise mes plaies, qu'il pense mes blessures quand je me tais. J'ai bâti autour de moi un mur de silence, cicatrice de l'intime sous les apparences. Vigilance extrême, quand arrive le soir, vigie. J'ai de vieux réflexes et des trous de mémoire. Victime d'une enfance hurlante, entaille brûlante, béante.
Chronos, les enfants n'oublient jamais avec Grand Corps Malade et vous, Dédé Cabal, bonsoir.
Bonsoir.
Ce titre est sorti il y a 2 ans maintenant. Qu'est-ce qu'il représente dans votre histoire, à vous ?
Beaucoup de choses.
Ouais.
Il représente en premier le retour d'une voix claire et sans masque pour s'adresser aux gens. Alors c'est quelque chose qui existait déjà sur scène dans les pièces de théâtre que j'ai pu jouer, mettre en scène et tout ça. Mais musicalement, c'est la première fois qu'un morceau sortait avec ma voix nue.
Ok. Et parce que jusque-là, vous la maquilliez, vous la rendiez plus grave.
Voilà, jusque-là, j'avais une voix plutôt gutturale, très très rauque, et qui était mon instrument,
Bonhomme quoi.
Voilà, exactement. On pourrait dire ça, oui. Un truc comme ça. Et ça a duré 30 ans. Et c'était pour moi une autorisation aussi de creuser très profond dans l'écriture et d'avoir un ultime paravent face aux gens pour me protéger un tout petit peu de ce que j'ai envie de raconter. Et ce morceau, c'est ce passage à une espèce d'autre vie adulte et cette collaboration avec Grand Malade que je connais depuis près de 20 ans maintenant.
Et qui est passé par ici, hein.
Yes.
Ouais.
Un grand salut à lui et je l'ai appelé, je lui ai dit écoute, je crois que je t'avais jamais proposé mais peut-être qu'on peut faire un truc ensemble. Je lui ai parlé du thème, il a dit c'est super, ça m'intéresse et puis on a fait ça et oui, c'est un morceau important pour moi.
Rappeur, slammeur, auteur, performeur, vous visitez l'écriture sous toutes ses formes et vous publiez votre premier récit dont je viens de lire quelques lignes, Ma honte, autobiographie d'un enfant violé. C'est tout le parcours que vous faites dans ce livre et parcours sur lequel sont engagés à peu près toutes les victimes ou ex-victimes des violences sexistes et sexuelles. C'est comment on se débarrasse du poids de cette honte, comment on se débarrasse de cette culpabilité qu'on n'a pas à avoir. Ce récit, c'est aussi celui d'un homme qui s'interroge, d'une masculinité qui se construit, ou plutôt se déconstruit, enlevant un à un, une à une plutôt, toutes ses peaux, un à un, tous ses oripeaux qui forment depuis des siècles une certaine idée de la virilité. Vous voilà ici, vous, dans ce studio, devant ce miroir. Je vous laisse le prendre. Et vous regardez, est-ce que vous pourriez vous décrire ?
Oui, j'ai vraiment cette couleur de cheveux très bizarre, comme mon pull. J'ai un pote qui disait, quand j'étais jeune, putain, t'as remis un pull couleur de tes yeux, de couleur de tes cheveux.
C'est vrai qu'il y a une harmonie.
Et c'est, voilà, c'est pas fait
c'est,
exprès.
C'est 50 nuances de, voilà. De doré.
50 années aussi. Donc je vois ça, je vois 50 années, je vois... Alors moi, ce qui me frappe dans, quand je regarde ce visage, c'est le regard. J'ai l'impression que... Vous savez, on dit souvent que les enfants abusés, on les reconnaît aussi parce qu'ils ont un regard d'adulte, entre guillemets, d'un enfant qui a vécu déjà trop de choses pour son âge. Et j'ai l'impression que j'ai le même regard depuis très, très, très longtemps. Et quand j'étais plus jeune, je passais du temps à interroger ce regard. C'est ce qui me donnait un peu le baromètre de la journée, qui m'indiquait comment j'avais dormi ou pas, ou comment, à quel endroit de moi je me situais. Donc, je vois ce regard qui est... En fait, je retrouve moi dans ces yeux-là. Le reste du visage, bah, ma bouche, c'est mon instrument. C'est ce par quoi j'existe. Et si j'avais pas ouvert, si cette bouche n'avait pas été ouverte par mes soins, je pense que je serais pas là pour parler, en fait.
On vous a posé la question en préparant cette émission, on la pose à tous nos invités. Comment souhaitez-vous être genré ? Et vous nous avez répondu avec une certaine forme d'inconfort assumé, genré moi au masculin.
Oui, je pense que c'est lourd d'être genré au masculin, c'est lourd. Imaginons que la planète entière soit sous le joug du Ku Klux Klan, et qu'on vous demande est-ce que vous vous sentez blanche. Avec une certaine forme d'inconfort, vous direz, il semblerait que je sois la même couleur que ces gens-là. Bah, je me sens pareil.
France Inter. En marge.
Bobigny, quartier de l'Abreuvoir, place de l'Europe, c'est chez vous ça? Est-ce que vous voulez qu'on fasse une petite pause? On peut, hein?
Non, j'adore.
Ah, c'est vrai?
Ah, ben c'est tout ce que la vie a de plus beau. C'est, Ah, ben c'est l'émotion mise en musique, c'est ce que le rap est que les gens ne voient pas.
C'est-à-dire?
C'est la puissance du récit, en fait. C'est. Et ce mélange d'enfants qui jouent et du camion de glace qui passe et derrière, groupe home qui passe, c'est. C'est précisément ça, c'est le souffle en fait. C'est que s'il n'y a pas cette musique, on est nombreux à pas être là, nombreux, nombreuses à pas être là.
Et c'est des souvenirs heureux pour vous ça, le
dehors, ouais.
La place de l'Europe dehors.
Ouais, dehors, ouais.
Dehors, ouais.
Dedans, non, dehors. Ouais.
Dedans.
Oui, c'est dehors que j'existe en fait.
Ouais.
C'est dehors que je m'exprime, qu'on fait relation en fait, qu'on joue, qu'on tombe, qu'on se relève, qu'on rigole et c'est la vie en fait.
À l'intérieur chez vous, c'est tout autre chose. Né quelque part en 1974, quelque part dans Paris, de père inconnu et de mère, c'est compliqué et douloureux. Employée dans la restauration, elle vit de peu et vous élève seule, votre demi-frère et vous. Un soir, elle regarde la télé dans sa chambre et vous n'arrivez pas à dormir. Malgré l'interdiction maternelle, vous quittez le lit et par la porte de sa chambre entrebâillée, vous voyez ceci.
Tarzan. Pourquoi suis-je ici, toute seule, avec vous? Oh, Tarzan, si j'arrivais à vous faire comprendre ce que je ressens. Venez tout près. Qu'allons-nous faire tous les deux maintenant?
Deux?
Moi et vous?
Moi et vous?
Wow.
Chérie, c'est tout à fait cela.
Il a rien demandé. Hein.
Tarzan, Jane, fait mal, moi, aimé. Jane.
C'est une réussite, tout un discours.
Wow.
Et c'est justement pour ça que dans cette émission, il y a plus de deux ans maintenant, on a décidé de laisser les micros ouverts, quoi qu'il arrive. C'est pour capter toutes vos réactions dans ce qu'elles ont de plus spontané et profiter de ce pouvoir incroyable du son. Vous avez attrapé, volé ces quelques images de Johnny Westmuller, de Tarzan et de Maureen O'Sullivan en Jane. Après, est-ce que vous pouvez nous raconter ce qui se passe après ces images volées à la télé de votre mère?
Alors, on est dans notre petit appartement à Bobigny et on est sur un plancher très très pourri, très vieux et qui craque. Mmh. Et je suis tout excité parce que je vois le film. Je crois que c'est bon, il se bat contre un crocodile et tout, c'est incroyable. J'ai un petit tressaillement et le plancher craque. Et ma mère entend. Et donc là, je sais que si elle me voit là, ça, je vais prendre très très cher, comme on dit, et donc je retourne dans ma chambre. Je me couche, on est dans un lit superposé, mon frère et moi, et elle rentre dans la chambre pour voir qui était debout et qui a transgressé l'ordre. Et moi, je fais semblant de dormir. Alors, il faut savoir que quand on est enfant et qu'on joue sa vie là-dessus, on est champion du monde, on peut faire semblant de dormir. Et là, moi, je voulais que je le fasse ? Non. Mais bon, vraiment, je fais semblant de dormir et je bouge pas, il n'y a rien qui bouge. Je pars loin, loin, loin. Et donc, elle est là, elle regarde, je sens sa présence.
Il faut imaginer la terreur qui est la vôtre parce que vous vivez dans une atmosphère de violence physique et psychologique absolument quotidienne.
Voilà, je sais que si je suis attrapé, entre guillemets, je vais me faire frapper. Et elle se penche sur mon lit, sur le lit de mon frère, une fois, deux, trois allers-retours, ça bouge pas. Et donc moi, je sais que c'est bon. Je fais tellement semblant de dormir que tout va bien se passer. Et puis tant pis, j'ai vu un bout de Tarzan, tout va bien se passer. Et là, elle fait cette chose abominable. Elle prend sa voix la plus douce, qui n'existe pas dans la vraie vie, et puis elle dit « Allez, Doudou, viens regarder le film avec maman. » Et là, je bondis de mon lit, super content. Parce que là, pour moi, il y a un truc complètement fou, en fait. C'est le soir, on est censé dormir, et maman m'autorise à aller voir Tarzan avec elle. Donc, mon frère, lui, il dort, tant pis pour lui. Je vais pouvoir regarder ce film, je vais pouvoir en parler le lendemain avec mes potes à l'école. En fait, ma mère n'est pas si dure que ça, en fait. C'est génial. En fait, tout ça, c'est une question de contexte, en fait. Et maman, quand elle est là et qu'elle a le temps et qu'elle est reposée et que c'est la nuit et que c'est calme, je peux me lever et on peut faire des trucs super cool ensemble. Et je me lève. Et là, je prends la raclée de ma vie, quoi. C'est-à-dire qu'elle avait une ceinture qu'elle avait préparée et elle m'a lacéré la peau. Je sais pas combien de temps ça a duré, ça a été interminable. Bon, j'ai évidemment pleuré. Puis il y a ce truc, vous savez, quand on est dans le lit, on peut pas partir, en fait. On peut pas se débattre parce que c'est des coups de ceinture. On peut pas se protéger parce que chaque coup qu'on reçoit fait mal à n'importe quelle partie du corps. Et moi, je battais des jambes comme ça pour essayer d'avoir un peu moins mal. Ça brûlait la peau. Et elle est partie en grommelant, je sais plus quoi, mais j'entendais plus rien. C'est le plus grand piège qui m'a jamais été tendu. J'ai trouvé ça, même à l'époque, d'une perversité redoutable. Et vraiment, aujourd'hui, ce qui reste, c'est la trahison. C'est pas les coups. Parce que les coups, il y en avait eu d'autres, etc. Mais c'est le piège tendu. Mmh. Et je me suis endormi avec des lacérations ensanglantées sur les hanches, et mon pyjama collait. Et le lendemain, je suis allé à l'école comme si de rien n'était.
Alors, ça semble inimaginable, mais la violence que vous vivez va encore grimper d'un cran avec l'arrivée de la sœur de votre mère qui s'installe chez vous. Le logement est petit, donc en fait, elle va dormir dans votre chambre, c'est ça ?
Dans la chambre de mon frère et moi, ouais. Alors, je reprends ce que vous avez dit parce que quand moi je vis ce qui va suivre, je le perçois pas du tout comme une violence.
Racontez-nous ce qui va suivre.
Ce qui va suivre, c'est que ma tante est là et un jour, je ne sais plus trop comment, enfin je sais comment, mais ce serait trop long, mais après qu'elle soit sortie de la douche, je me retrouve sur elle. Et je vis ce que j'identifie comme un très bon moment et c'est incroyable.
Alors, sur le moment, et vous le dites très bien dans votre livre, il y a quelque chose qui ressemble à du plaisir et que tous ceux qui bossent sur les violences excitées sexuelles reconnaissent très bien. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a une espèce de réaction mécanique, physique, biologique à ce qu'il est en train de se passer. Et l'instant d'après, c'est l'hématome, c'est comme ça que vous l'appelez.
Ouais.
C'est quoi ?
Alors, ce que moi j'appelle l'hématome, c'est intéressant ça aussi, j'en parle dans le livre, c'est ce moment où, à force de frottement, il y a une excitation qui monte, mmh. un plateau, mmh. et puis ça redescend. Donc on pourrait reconnaître là l'espèce de courbe de l'orgasme, si on peut l'identifier en tant que tel. Et en fait, moi j'appelais ça l'hématome dans ma tête, sans savoir ce que ça voulait dire comme mot. Et après ça, j'étais très 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 triste, comme une espèce de mini-dépression.
Parler de dégoût aussi.
De dégoût, oui. Qu'est-ce que je fais là, c'est quoi, et je m'en allais. Et en fait, dans les fois d'après, n'identifiant pas ces moments comme des moments problématiques, interdits, répréhensibles.
De viol, voilà, disons-le.
Ouais. De viol, je passe des moments que j'identifie comme bons jusqu'à cet hématome. Ce que j'appelle l'hématome. Et donc voilà, ça a duré quelques temps, je sais pas, je crois une année scolaire, quelque chose comme ça. Et ça a été quelque chose qui, fondamentalement...
Vous êtes son joujou sexuel, quoi. Vous êtes son jouet, son doudou, son objet. Elle fait ce qu'elle veut de vous. Elle regarde des magazines porno avec vous, alors qu'encore une fois, c'est une adulte et que vous avez 8-9 ans. Elle va partir, elle va quitter la maison, mais ça, on va en reparler. Ce qu'il y a de frappant, c'est que les mots sont votre métier, et vous le dites, vous le soulignez. Pourtant, vous allez mettre 30 ans à mettre le mot inceste sur ce qui vous est arrivé. Ça viendra par la musique. D'abord, ouais, parce que la musique, tout jeune, ça va vous sauver. Vous avez 11 ans quand on vous offre votre premier Walkman et l'espoir aura ce son-là. I guess I should know by the way you parked your car sideways. I don't wouldn't last. It's the other kind of person who believes in making out once, love them and leave them fast. I guess I must be dumb. She had a pocket full of horses, Trojan and some of them used. But it was Saturday night. I guess that makes it alright. You see, what if I got to lose? Vous fait ce titre de Prince, Little Red Corvette. Vous avez 11 ans.
Alors, je reviendrai sur mon âge après, si vous voulez bien.
Ouais.
L'effet que ça me fait, c'est ce que moi j'appelle, depuis ce moment-là et depuis toujours, ce que j'appelle les musiques de la nuit, en fait. Mmh. C'est les musiques qui s'écoutent la nuit seule et ça me transporte. Et moi, j'ai l'autorisation de sortir de chez moi pour aller marcher avec mon Walkman, il fait nuit. Ouais. Et je suis pas là, en fait.
Ça vous raconte quoi? Que vous allez pouvoir grandir, que vous allez pouvoir partir, que vous allez pouvoir bouger, que vous allez pouvoir danser, que vous allez pouvoir...
Ouais, en fait, ce que ça me raconte, c'est que même en étant à un endroit qui me déplaît, je peux partir, en fait.
Ouais.
Je n'associe pas ça à une fuite physique, mais je sais que je peux activer quelque chose à l'intérieur qui me fait partir, et ça, c'est précieux. Et en fait, je crois que je décide que ma vie sera comme un vidéoclip, en fait, que... Tout ce que mes yeux vont voir sont des rushs que je vais mettre dans un film que je vais faire. Vraiment, quoi. Et ce morceau, le début, là, ce que ça me fait à chaque fois, c'est extraordinaire, quoi.
C'est à peu près le moment aussi des premières bandes de potes. Comment vous vous situez dans une bande de garçons, vous?
Alors moi, il y a un truc que je dis souvent, c'est que une partie des enfants abusés mettent, sans le savoir, toute leur énergie, dans le fait de se camoufler. Mmh. Et donc moi, j'ai plein de potes. Je suis hyper cool. Je suis un peu un meneur de bande, mais je suis pas vindicatif et bagarreur. Je suis la personne autour de laquelle on se réunit pour faire du sport, pour faire des trucs et tout. J'avais une bande de potes et tous les jours après l'école, on allait jouer au tennis, jouer au baseball, jouer au foot. Enfin, c'était vraiment, vraiment cool. Et en même temps, je sens bien qu'on est super différents. Il y a un truc où... déjà, moi, je suis triste. Ça, je le sais. J'ai accès à une espèce de tristesse qui existe quand je suis pas avec eux et quand je suis chez moi. Parce qu'en plus de la menace physique perpétuelle, les violences psychologiques, il y a aussi les violences économiques. Il n'y a pas beaucoup de thunes à la maison. Et moi, j'ai souvent faim. En fait, je suis un enfant qui a faim régulièrement. Ça m'arrive souvent de me coucher en ayant vraiment faim et d'espérer que midi va arriver vite le lendemain à l'école pour manger à la cantine. Et en fait, chez mes potes, il y a des gâteaux, du Nutella, du vrai beurre. Enfin, c'est assez fou. Donc, il y a un truc comme ça où je me projette avec eux. Et c'est quand même mieux chez eux. Leurs parents sont plus cool, leurs maisons sont plus grandes, etc.
Ce que vous développez aussi dans votre livre, c'est comment, à ces âges-là et dans ces bandes-là, on développe les codes d'une hyper-virilité, on développe aussi toute une gamme qu'on va appeler érotique, mais on va dire un rapport à la sexualité qui sera très codifié dès ces moments-là, en fait.
Dans mon regard et ma réflexion, ça se concrétise un peu plus tard, mais déjà, à ces âges-là... je me rappelle d'un jeu, je sais plus si on l'a appelé comme ça après, mais qui s'appelait Chat Téton. Mmh. Où on se pinçait les tétons au moment de la puberté. Vous savez quand ça fait, je sais pas si les gens savent, mais chez les garçons aussi, ça fait très très mal. Ouais. Et c'était mais super douloureux, quoi. Donc, enfin, on n'a pas idée d'imaginer. Peut-être j'ai une bêtise, hein, mais que les filles entre elles dans la cour de récréation se pincent le bout des seins pendant la puberté et que c'est cool, en fait. Et on riait de ça.
C'est-à-dire qu'il y a une confusion qui se fait très vite entre la violence et la tendresse, entre...
Oui, je crois qu'on construit
faire mal.
Oui, je crois qu'on construit l'espèce de mythe de même pas mal, en fait. Il y a rien qui fait mal. On est des petits mecs et on nous raconte de manière un peu sourde mais très concrète que le monde est à nous, donc le monde sera à nous et donc on s'entraîne, en fait.
Et alors là, attendez, arrivé d'un ingrédient majeur dans votre vie, un majeur dans votre livre, le rap, son énergie, ses mots, son flow, et ça, c'est le morceau que vous écoutiez. Black on Black Crime, Stanley Clarke, bande originale d'un autre film culte, hein, Boys in the Hood. Watch me shoot this mother. Le rap, dans votre vie, à ce moment-là, vous apporte quoi?
En tant qu'auditeur ou en tant que pratiquant?
Pratiquant, parce que c'est à peu près à ce moment-là, vous avez 17-18 ans, vous êtes au lycée.
Ouais.
Avec un pote, vous décidez de vous mettre à écrire pour faire un peu comme Assassin que vous aviez vu à l'Olympia.
Ouais, ouais.
Et vous vous êtes dit, en gros, bah, s'ils y arrivent, on peut aussi.
Alors, parenthèse hyper importante, j'ai pas eu le temps de souligner hier dans une émission où j'étais invité. Donc c'est Assassin à l'époque qui fait ce déclic. Mm-hmm. Sur scène, il y a Rockin' Squat et Solo. Mm-hmm. Et Solo, il y a très peu de temps, a raconté comment il avait été agressé sexuellement à 17 ans par Afrika Bambaataa. Et évidemment, moi, jeune noir de Bobigny, quand je vois Assassin sur scène à l'Olympia, je m'identifie à Solo.
C'est fou, ça.
Mais c'est comme ça que ça marche. Et c'est super intéressant, parce que moi, c'est aussi là-dessus que je travaille. Et on s'est rencontrés avec Solo il y a quelques temps et tout. Bon, voilà, petite parenthèse super importante aussi. Comme ça que marchent les modèles d'identification, même quand les choses auxquelles on s'identifie ne sont pas identifiées, ni identifiables. Donc, nous, on commence à faire du rap, et on est dans les années 90, il n'y a pas beaucoup de rappeurs en ville. Ouais. Et il y a quelque chose de très... très, très excitant, et surtout moi j'ai toujours écrit, c'est-à-dire que j'en parle pas beaucoup dans le livre, ça aurait pu faire un livre en soi, mais moi j'ai adoré les rédactions en français, j'en ai fait beaucoup, et mon premier petit boulot à l'époque c'était des francs contre 5 francs dans la cité, j'écrivais des rédactions en français pour les grands de la cité j'écrivais des poèmes pour me moquer des mecs de la rue d'à côté parce qu'on était plus forts qu'au foot et en tennis, et je voyais que ça les vexait, et donc j'ai continué, et le rap en fait est devenu une manière orale de continuer mon amour de l'écriture, de continuer à vivre mon amour de l'écriture. Et donc en faire, c'est on est un peu des super-héros, quoi. C'est-à-dire qu'on prend les mots, on voulait avoir une écriture très très poétique, on était engagé socialement, politiquement, et puis on n'est pas beaucoup à le faire, donc c'est assez excitant à ce moment-là.
Et alors, engagé socialement et politiquement, oui, puisque vous écrivez un morceau en 93 qui ne sortira jamais, qui s'appelle Anthropologie d'un inceste.
Voilà,
c'est-à-dire que vous, ça ne vous est pas arrivé, vous êtes encore dans un truc où vous racontez que ce qui s'est passé avec votre tante sont des...
C'est plutôt cool.
Ouais, c'est cool, c'est de l'amour, c'est tout ça, et vous écrivez ce morceau-là.
Oui, ça c'est un morceau, je me rappelle, c'est le quatrième morceau du groupe Kabbal à l'époque. On bossait dans un studio à Meudon, et ces morceaux ne sortiront pas parce que c'est les premiers morceaux du groupe et tout, mais donc c'est quatre morceaux qui ne sortiront pas. Et le dernier morceau que je fais, parce qu'à l'époque j'ai ma voix claire, le dernier morceau que je fais avec ma voix claire, c'est celui-là. Ouais. C'est celui-là, Anthropologie d'un inceste.
C'est-à-dire que la mémoire, elle toque à la porte, quoi.
À l'époque, je ne l'identifie pas comme ça, mais en tout cas, je dis, personne dans le rap n'a jamais fait un morceau sur l'inceste, il faut qu'on fasse ça.
On y va. Okay.
Donc on le fait, le morceau me plaisait beaucoup, et la vie étant ce qu'elle est, plus jamais je parle de ce thème après, et ma voix prend ce masque dont on parlait pendant plus de 20 ans.
Vous avez 18-20 ans, pas le temps, pas la force, encore pas l'envie de soulever le couvercle, vous avez votre vie à construire, vous avez vos morceaux à écrire, alors vous avancez à 2, et puis 3, 4 et plus. À ce moment-là, vous rencontrez celle qui deviendra la mère de vos 4 enfants, enfin bref. Pour vous, c'est pas le moment de faire la révolution. Don't you know, talking about a revolution sounds like a whisper. Don't you know, talking about a revolution sounds like a whisper. While they're standing in the welfare lines, crying at the doorsteps of those armies of salvation, wasting time. Gonna rise up and get their share. Don't you know you better run, 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 run. 'Cause finally the tables are starting to turn. Talking about a revolution. Yes, finally the tables are starting to turn. Talking about a revolution. About a revolution, while they're standing in the welfare lines, crying at the doorsteps of those armies of salvation, wasting time in the unemployment lines, sitting around waiting for a promotion. Don't you know, talking about a revolution. Tracy Chapman, une autre figure, une autre voix qui a compté pour vous dès de Kabbal. Quelle corde est-ce qu'elle a pu faire vibrer ?
Il y a plusieurs choses. La première chose dont je me souviens quand je vois Tracy Chapman, ce morceau, c'est sur scène. Et moi, je ne sais pas si c'est une elle ou un il.
Ok, oui.
Je n'en sais rien. Et c'est la première fois que j'ai accès à ça. Et je n'en sais absolument rien. Je suis complètement retourné par ce que j'entends. Je trouve ça super fort, super beau. Et tant que je n'ai pas le nom Tracy Chapman, je ne sais pas.
Et vous en foutez?
Ah ben, c'est pas la question. Ouais. Enfin, moi, ce que j'aime, c'est la musique. Donc, et je deviens un gros, gros accro de Tracy Chapman, surtout sur les deux premiers albums, parce que là, cette énergie de... Ah ouais, c'est triste.
Ouais.
Ah ouais, ça peut descendre bas. Eh ben ouais, on va descendre plus profond. Et alors moi, je dis un truc aux gens. Quand il pleut, que le ciel est bas et lourd, vous vous sentez triste, mettez pas forcément une Tracy Chapman parce que ça descend encore de 3 étages. J'ai fait un petit peu, faut pas faire trop.
Dede Kamal, votre livre Ma honte, autobiographie d'un enfant violé, c'est un récit autant qu'un essai passionnant sur les masculinités. On va poursuivre sur ce chemin qui a fait de vous l'homme que vous êtes aujourd'hui. Vous êtes sur France Inter, bienvenue si vous nous rejoignez.
France Inter, En marge, Julia Foïs.
1998, sacré tournant pour vous. Vous travaillez sur votre premier album solo et vous serez bientôt papa. Un soir, vous allez chez un couple d'amis. À un moment donné, vous installez sur le canapé, vous mettez la VHS dans le magnéto et vous allez regarder ce film, Excès de confiance de Peter Hall avec Rebecca de Mornay et Antonio Banderas, l'histoire d'un flic qui tombe amoureux de sa psy, schizophrène. Fin du film, voix off.
Le syndrome de personnalité multiple peut difficilement être simulé. Le cas du tueur en série récemment condamné, Max Jeski, lequel a tenté sans y réussir d'en faire son système de défense, en témoigne. À l'origine du syndrome de personnalité multiple, on trouve toujours un traumatisme infantile causé en général par des violences sexuelles. Inconsciemment, l'enfant crée d'autres personnalités qui se partagent le fardeau. Le fardeau, le poids proprement insupportable de la honte attachée aux événements dont le souvenir a été refoulé.
Bon temps de brûler.
Ben voilà.
Qu'est-ce qui se
J'y
passe
vais. Non, c'est bon.
Merci beaucoup, au revoir, à bientôt. Wow. Qu'est-ce qui se passe pour vous à ce moment-là, au moment où on entend le générique de fin?
Ah ben moi, c'est ce qu'on appelle une sortie de déni, en fait.
Ouais.
Techniquement. Alors, faut imaginer... Je suis en pyjama, tranquille, dans mon salon, et puis il y a un train qui traverse le salon, et je me le prends en pleine bouche.
Okay.
En fait. À l'époque, je travaille sur mon premier album solo qui s'appelle Conte Ineffable. Il sortira 5 ans plus tard, parce qu'à l'époque, on mettait du temps à faire des albums. Et mon concept était simple, c'était de dire, bon, ta grosse voix, c'est bien joli, mais sur un album entier, ça va saouler les gens, même toi. Donc, je me suis inventé différents personnages. Mm-hmm. Et donc, le challenge sur cet album-là, c'était d'avoir 5 personnages différents qui avaient leur type d'écriture différent, leur voix différente, mm-hmm. etc. Et je m'éclatais à le faire et j'étais en train d'enregistrer ça. Et donc, le concept s'articulait autour d'un morceau phare, un morceau dans lequel je rappais avec 5 voix qui s'appelait Schizophrénia. Et donc, c'était la schizophrénie. Je trouvais ça drôle et tout et tout. Mm-hmm. Puis, on n'avait pas Google à l'époque, donc on ne googlisait pas pour voir c'est quoi la schizophrénie. Ça. Mm-hmm. Et je regarde ce film, qui n'est pas ouf. Hein.
Mais j'en ai pas un souvenir.
Oui, non, c'est pas extraordinaire.
Je l'ai vu, voilà. Mais c'est pas non plus.
Et l'extrait que vous avez passé, je me prends ça à la fin. Mmh. Et donc, c'est la schizophrénie, ça me passionne. Je savais pas que c'était le thème. Je suis, ah ouais, comme mon album et tout. Et je suis à deux doigts de prendre des notes. Et j'entends les blessures de l'enfance, le fardeau trop compliqué à porter.
La honte,
ça percute pas. Je l'ai percuté là dans le rectangle. Mais comment on fractionne le fardeau pour pouvoir le porter. Et là, je fais, boah. Et en fait, ce qui s'était passé avec ma tante, je l'ai jamais oublié. J'ai toujours rangé au mauvais endroit, en fait. Et là, je fais un exercice qui m'a sauvé la peau et que je fais le plus souvent possible quand je peux, quand je discute avec des gens ou quand je fais des groupes de parole. Je fais ce que j'appelle le changement des polarités. C'est-à-dire qu'au lieu d'imaginer que c'est une tante et son neveu, je me suis dit, et si c'était un oncle et sa nièce? Et je suis allé vomir.
Vous rentrez chez vous, vous en parlez évidemment à votre compagne. Le fait de mettre des mots, les mots justes, sur ce qui vous est arrivé, parce que, encore une fois, les souvenirs chez vous n'avaient pas disparu, c'est juste que vous ne les aviez pas rangés dans la case qui leur convenait. Vous en parlez donc à votre compagne. Qu'est-ce que ça va changer pour vous?
Ça va tout changer. Mon ex-compagne et moi, à l'époque, on parle beaucoup de tout, parce qu'on va être parents pour la première fois. Mmh. Et moi, se pose la question de qu'est-ce que je vais transmettre à mes enfants. Donc, bon, ils le savent, mais je leur redis, les enfants, si vous m'écoutez, ce sont des biens immatériels. Il n'y aura rien.
Sur moi.
Par contre, il y a plein de CD de l'album Désapprendre. Voilà. Et donc, je me questionne sur j'ai pas grandi avec mon père, je connais pas mon père, quel parent je vais être. Et donc, dans le même mouvement, je me prends ce train qui passe au milieu du salon, et je sais qu'il faut que je fasse quelque chose de ça, en fait.
Ouais.
Et là commence... une espèce d'exploration Ouais. Parce que ce qui accompagne cette sortie de déni, c'est une colère monumentale. Mmh. Une colère monumentale parce que, comme je le dis à cette époque-là, voilà, j'écris des textes engagés, sociaux, et je suis quelqu'un qui réfléchit, j'ai pas l'impression d'éviter les sujets. Évidemment, quand on est dans le déni, on le sait pas, sinon c'est pas drôle. Et je suis en colère d'avoir mis autant de temps, j'ai 24 ans, hein, et je me dis, comment ça se fait que j'ai pas pu voir ça avant, quoi? Comment on peut réfléchir autant sur tous les sujets et pas voir ça? Et ça, ça m'a vraiment mis en colère et c'est ce qui m'a poussé après à travailler sur ces questions-là.
Et vos mots, vous allez les mettre en musique, comme vous savez si bien le faire. 2003, premier album solo, Contes ineffables, avec ce titre, Peine à vivre.
27 ans, j'ai 27 ans. Je pensais qu'il m'en aurait fallu 10 de plus pour parvenir à mettre en mots cet infernal processus. Depuis hier déjà, ma coupe est pleine. Mon être est empreint de mélancolie, mon âme saigne. Alors que depuis l'âge de 12 ans, je m'applique à faire en sorte que ma vie décrive le meilleur mouvement. J'ai toujours tout mis en œuvre pour prendre le meilleur tournant. En ce moment, j'évolue dans le bonheur. Avec moi une femme que j'aime et deux enfants qui colorent mes nuits de leurs pleurs. On s'est battu pour tout ça, j'ai lutté contre moi pour tout ça. J'y ai mis le prix, combattre ces démons intérieurs. Les enfouir quand le traumatisme qu'ils érigent est trop profond, qu'il fait peur. Je vois qu'on récolte ce que l'on sème et pas toujours ce que l'on aime. Une remontée acide, lucide et pernicieuse au point d'être parfois liberticide. Chez les Antillais, être élevé à la rude est une tradition. Ne vaut un bon coup de fouet qu'une petite punition. J'ai rarement été
c'est
privé
terrible,
de
parce qu'il y a un moment où je vais devoir merci sortir mon invité de son kiff qui est tellement génial à voir et j'ai l'impression d'être affreuse, d'être une méchante sorcière, mais pardon, je suis obligée de vous ramener à la table de ce studio. Vous le dites dans ce morceau, une femme, deux enfants, mais où est votre mère à ce moment-là? Quels sont vos rapports avec elle?
Alors, je fais un petit aparté important.
Ouais.
Le morceau qu'on écoute a été produit par Professeur K, qui nous a quittés il n'y a pas si longtemps que ça, et voilà. Et quand j'entends un morceau de musique avec de la basse, j'entends Professeur K qui joue de la basse comme
et
sur ce morceau.
Canon, voilà. Ce morceau. Je suis vraiment désolée qu'on puisse pas le passer en entier, mais on a tellement de choses à se, ouais, à se dire encore. Et le
ma mère est dans les parages. Ma mère, ouais, est dans les parages et je suis quelqu'un qui aime la paix. Mmh. Je suis pas en guerre contre ma mère. Mmh. Je sais ce qu'elle m'a fait. En tout cas, à ce moment-là, j'ai accès aux violences physiques qui sont très claires. Et j'estime qu'il y a quelque chose de... J'adhère au mythe de la famille, en fait. Mmh. J'adhère à ce mythe qui dit que la famille peut tout rendre très beau. Et en fait, je trouve que ma mère est potentiellement une super grand-mère. Ouais. Qu'elle était une mère affreuse, mais et je trouve qu'il y a quelque chose de beau dans... Et puis je racontais ça, mais parce que comme je documente tout, je raconte tout, je disais à mes potes, oh c'est génial, c'était une mère affreuse, mais qu'est-ce qu'elle est cool comme grand-mère. Jusqu'au jour, elle lèvera la main sur un de mes enfants, mais ça c'est encore une autre histoire. Mais parce que les gens qui sont violents toute leur vie, en fait.
Et puis de toute façon, ça tient pas, c'est-à-dire que sous le couvercle, il y a cette colère qui boue, et vous le sentez, à un moment ou à un autre, va falloir que ça va déborder. On continue à avancer dans le temps avec vous, on est en 2007, vous faites un dernier tatouage, enfin je dis dernier dans le temps, et vous allez trouver votre mère. Qu'est-ce que vous lui demandez?
En fait, je me fais un tatouage dans le dos, qui prend toute la largeur du dos. Et alors, c'est pas la première fois que je me fais tatouer, je suis tatoué sur à peu près la moitié de mon corps, comme je dis dans le livre, je raconte un peu toute la trajectoire de ce projet-là. Mmh. Et je me rends compte que j'ai pas mal comme d'habitude, que c'est une douleur qui est plus profonde, c'est pas simplement... Les demi-douzaines d'aiguilles dans l'épiderme, ça me fend à l'intérieur, c'est horrible, pendant toute la durée du tatouage. Et sur le chemin de retour, je réfléchis, et j'en arrive à la conclusion que la seule chose à faire, c'est d'aller voir ma mère. Mmh. Et donc je vais la voir, et je lui raconte tout. Pourquoi je me tatoue, l'importance pour moi de mettre des nouvelles cicatrices sur ma peau, mais des cicatrices en forme de dessin, avec de l'encre dedans, et des cicatrices que je choisis, mmh, qui sont à moi et qui racontent mon histoire. Et donc je lui parle des coups que j'ai reçus de sa main, et comment c'est très dur de vivre avec ça. Et on a un moment extraordinaire, en fait, ouais, où elle comprend ce que je dis. Pour les gens tatoués, ils le savent, les autres le savent pas forcément, mais quand on est après un tatouage, on se met de la pommade cicatrisante. Alors je sais plus si on le fait trop aujourd'hui, parce que les techniques évoluent, et en tout cas, il faut penser cette plaie. Et c'est elle qui pense ma plaie, et en me disant des choses très précieuses pour moi. Et moi, je repars de là, je suis plus la même personne, je suis guéri, en fait, dans ma tête. Qu'est-ce qui est naïf, celui-là, incroyable.
Parallèlement, vous retrouvez votre tante en Martinique, à l'occasion d'un voyage en Martinique, vous retombez sur elle, vous avez discuté avec elle une première fois, et vous allez lui dire que vous lui avez pardonné, c'est ça?
Ça, c'est un peu avant. Mmh. Je vais voir ma tante pour lui dire, pareil, que je n'ai pas oublié,
ouais,
que je sais que ce sont des viols, Et qu'en même temps, je suis pas là pour lui dire « Ouais, c'est relou ». Je suis là pour lui dire « Bah, je sais que c'est un poison systémique, en fait. »
Oui, parce que vous comprenez au même moment qu'il y a un climat de toute façon incestuel dans la famille que dans la société tout entière. Ce sont des violences qui gangrènent toutes les familles.
Et qu'il n'y a pas un enfant qui est choisi au hasard par l'énergie globale et que c'est quelque chose... Voilà. Et donc, je lui dis que moi, j'ai besoin d'en savoir plus parce que j'ai des enfants, en fait. Et que ces enfants-là, que j'ai, ils sont supposément, ils appartiennent supposément à la même famille. Et que pour moi, c'est pas possible. Et que moi, je vais parler. Et il faut que ça s'arrête. Donc là, elle me dit qu'effectivement, viol, elle a subi. Je suis pas surpris. On a une discussion très, très intéressante là-dessus. Et moi, je me sens vraiment apaisé aussi, en fait. Et en fait, c'est intéressant parce qu'aujourd'hui, je ne vois plus les gens, ces gens-là. Je les verrai plus. Ouais, et j'ai vraiment tout fait pour être en paix, en fait.
Et vous allez couper les ponts parce que quelques années après, elle revient à Bobigny dans l'appartement.
Elle dort dans la même chambre où tout s'est passé.
Et elle dort dans cette chambre-là. Et là, cette fois-ci, vous explosez.
Ouais, là, je trouve ça un peu trop. Là, en fait, c'est, vous savez, c'est comme piétiner une tombe ou un objet précieux, quoi. Et là, je lui ai dit, et j'ai dit stop, en fait. Moi, je suis au maximum de ce que je peux faire pour apaiser les énergies.
Professionnellement, vous élargissez le spectre hein, parallèlement à la musique que, bien entendu, vous poursuivez. Vous fondez votre compagnie, Riposte, avec laquelle vous allez écrire, monter, mettre en scène des spectacles autour de la question du genre, des masculinités, des violences. Il y aura d'abord L'homme-femme, Les mécanismes invisibles en 2013 ou encore Fêlure, Le silence des hommes joué au théâtre de la Colline en mars 2019.
Quand il n'y a plus de femmes dans le public, ils disent la vérité. Ils disent qu'il leur est impossible de désavouer cet aspect de leur sexualité sous peine de tout perdre. Sous peine de ne plus être un homme.
J'ai lu un article.
Oui, et
la journaliste disait qu'un certain nombre de femmes hétérosexuelles, je ne sais plus combien, avouaient ne pas être complètement comblées dans leur sexualité.
Ah, et
du coup, ta réponse m'a rassurée.
C'est déjà ça. Tu sais, je me bats pour ton bonheur, mon amour, et je suis contente si quand je te dis que ça va, je te rassure.
Il va y avoir une discussion très importante à l'issue d'une représentation de Fêlure, discussion avec votre frère qui vous permet de faire un pas supplémentaire vers votre vérité, j'ai envie de dire. Est-ce que vous pouvez nous raconter ?
Faut dire que mon frère, je crois qu'il a fait quelque chose où il est venu voir trois fois Fêlure dans la même semaine.
Okay.
Avec des personnes différentes, en disant Ah, il est bien ce spectacle. Et à l'issue de ça, on a une discussion. Et pareil, c'est le même fonctionnement. Il me rappelle quelque chose que j'avais jamais oublié, mais que j'avais jamais mis sur le pas de la porte des souvenirs, quoi. Et il me rappelle que notre mère, quand on était enfant, pour éviter qu'on mouille nos draps, comme on dit avec poésie, venait dans la nuit et baissait notre pantalon de pyjama et nous attrapait par le sexe, griffait le sexe au passage et nous tirait pour qu'on sorte du lit.
Mais ces souvenirs-là, vous les aviez toujours eus. Pour vous, c'était une violence de plus. Quel mot est-ce que vous parvenez à mettre dessus ?
Je fais cet exercice qui m'a sauvé la peau quand j'ai regardé ce film. J'ai inversé les polarités.
Ouais.
Si un papa va dans la chambre de sa fille, qu'il baisse son pantalon, qu'il l'attrape par les parties génitales et qu'il la met aux toilettes, c'est une agression sexuelle. Je dis ça parce que, malgré mon acuité sur le sujet, j'ai besoin d'en passer par là. Ouais. C'est dire comment la société est construite.
Bien sûr. Vous allez donc trouver votre mère une deuxième fois. On est plus de 10 ans après
le tatouage. Oui, là on est en 2018.
Vous lui dites quoi ?
Je lui dis que c'est terminé, que je ne peux plus l'avoir. Que sa présence m'insupporte, que j'ai trop mal, que mon projet c'est d'aller mieux, je mets toute mon énergie dans le fait d'aller mieux, et que je ne peux pas élever des enfants en leur disant « Ne vous approchez pas des gens dangereux, mettez à distance des gens toxiques et restez et relationnez avec toi, chère mère. » Donc, c'est terminé. Et là, elle me dit cette phrase extraordinaire. Elle me dit « Mais moi, je t'ai jamais rien fait. »
Oh.
Et là, j'explose.
Marge sur France Inter.
Avec ce livre, c'est la première fois que vous nommez pour tout le monde, pour le grand public, inceste, ce que vous a fait votre mère. Est-ce que ça a libéré quelque chose ? Alors c'est tout frais.
C'est encore un peu jeune, ouais.
Ouais.
Hier, je t'ai invité à une émission et pour me présenter, on a dit ça et je fais ah oui, ça va vite quand même. C'est résumé beaucoup de travail en pas longtemps, mais je trouve que c'est pas facile parce qu'en fait, j'ai l'impression, en tout cas, je vais parler pour moi, c'est ce jeu qui m'est très précieux, j'ai l'impression que je me suis toujours considéré hors de ce groupe-là, parce que...
Quel groupe? Vous voulez dire du groupe des ex-victimes d'inceste?
Exactement.
Ouais.
J'ai même des victimes d'inceste, c'est tellement à l'intérieur de moi que c'est, même si les faits sont passés, je suis victime d'inceste au présent. Et en fait, ma tante, à un moment donné, je me suis dit, bon, ça s'appelle quand même de l'inceste. Et ma mère, c'est plus récent parce que j'ai la mémoire traumatique étant ce qu'elle est, j'ai mélangé les images des agresseuses, en fait. C'est que j'ai, à un moment donné, j'ai très tôt identifié ma tante, et dans des souvenirs que je creusais, il y avait ces corps, ces choses que je voyais, et j'ai mis du temps avant de comprendre que... une agresseuse prenait la place de l'autre et qu'en fait il y en avait deux. Et c'est certaines, et puis je vois bien, il y a un endroit où mon cerveau dit excuse-moi mon gars, tu sais quoi, on va pas te montrer tout tout de suite.
Ah ouais.
Tu sens que t'es prêt mais sois un peu patient. Je commence à bien connaître mon cerveau qui est en lien direct avec mon ventre. Donc voilà, mais les agressions sexuelles dans la nuit dont on a parlé avec mon frère, c'est hyper clair et ça suffit déjà, ça suffit, si je peux me permettre, à être victime d'inceste à cet endroit.
C'est gigantesque. Sur ce chemin qui est le vôtre et qui vous conduit vers un après, c'est une femme qui va vous accompagner, et ce, pour l'éternité. Queen Latifah, Just Another Day.
Good. I'm with whatever comes my way. Hip hop parade, Latifah's on vacation. I'm just plain old day to the day. I strap up, step
Qu'est-ce que c'est bon, Queen Latifah, parce que, au-delà du fait que c'est bon.
Parce que c'est une époque où j'écoute tout ce qui sort en rap américain et rap français. Et que je suis boulimique de rap. Et que ce morceau, en le réécoutant, je me rends compte de ça. Et il me fait penser à Little Red Corvette de Prince, en fait, dans l'énergie. Même si je ne me disais pas à l'époque. Et par-dessus... ce que je comprends des paroles les plus proches de moi en fait, et c'est ce truc ce genre de rap à la It Was a Good Day où finalement il y a des jours au quartier, c'est vraiment cool quoi, et ça me renvoie un peu ce qu'on a écouté tout à l'heure avec les enfants qui jouent dehors et le canon de glace.
Ce boucle, on va se quitter sur vos mots à vous, les mots que vous avez écrits, vous voulez les lire?
Je les connais.
Ok, alors on y va. Oui, parce que je vous tendais un papier, on raconte tout hein, ici. Je vous tendais un papier, donc très gentiment, vous l'avez décliné. On va se quitter sur vos mots, à vous, des deux cabales. Je vous laisse y aller quand vous voulez.
Chaque fois que j'ouvre la bouche, j'entends les bruits de nos pères. Chaque fois que je crie, ce sont les cris de nos mères. J'entends les sanglots de nouveau-nés captifs chaque fois que je pleure. Je vis dans ce monde avec un seul poumon et un pieu planté dans le cœur. Ce qui nous tient, c'est de savoir que nous sommes les descendants de survivants. Survivantes. Incassable. Ce qui nous lie, c'est de sentir gronder en nous cette folie, cette rage. Incassable.
En marche, c'est terminé pour ce soir. De Cabale, merci infiniment d'être venu faire ce bout de chemin avec nous, d'avoir partagé avec nous vos pensées, vos mots aussi. Ma honte, autobiographie d'un enfant violé, est un livre édité au Diable Vauvert. Merci à toutes, merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine, toujours avec le même plaisir.